Éric Bataillon.
Bonjour. Il décrit une bande de terre étroite où les avions, les trains, la nature ne font pas partie de l'imaginaire. Il raconte une vie à huis clos, sous les bombes, une vie rythmée par les coupures d'électricité, par la recherche d'une eau qui manque cruellement. Gaza est un bout de territoire surpeuplé qui ressemble à une prison à ciel ouvert, nous dit Amir Hassan, né à Gaza en 1990 et désormais réfugié à Paris. Il raconte. Drôle de statut pour une ville trois fois sainte. Jérusalem est revendiquée par les Palestiniens comme leur capitale dans sa partie est et aussi par les Israéliens dans sa totalité. Pour l'instant, c'est non pour tout le monde, nous explique Michel Paul, qui nous rappelle, depuis Jérusalem justement, ce qu'est le statut actuel de la ville. Avec Alexandre Bouchanti au Caire, nous essaierons d'y voir plus clair dans l'affaire du gaz en bouteille en Égypte. Comme chaque hiver désormais, c'est la pénurie et nombreux sont ceux parmi les plus pauvres qui voient leur facture de chauffage s'envoler.
Orient Hebdo sur RFI.
Amir Hassan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes originaire de Gaza, où vous avez commencé à apprendre le français à l'âge de 18 ans. Vous en avez désormais 26. Alors, à 20 ans, vous êtes sorti pour la première fois seulement de la bande de Gaza. En France, vous avez été assistant de langue arabe au lycée parisien Henri IV et Voltaire, et vous continuez d'ailleurs de donner régulièrement des cours de langue arabe à Sciences Po Paris. Amir Hassan, vous avez grandi dans un camp à Gaza, le camp de El Shati. Comment vit-on dans un tel camp lorsqu'on est enfant?
On vit dans une vie sans couleur, dans une misère totale, dans des maisons qui ne sont pas des vraies maisons, dans un camp sans route, sans rue, sans infrastructure, sans eau, sans électricité. Donc c'était vraiment un monde à part et une concentration de la misère humaine.
Il y a une différence d'ailleurs entre les camps à Gaza et le reste de la population qui vit dans des villes qui sont des villes.
Tout à fait. Et d'abord, il faut souligner qu'à Gaza, il y a 75% de réfugiés. Ça veut dire ces gens-là, les réfugiés dont je fais partie, on va pas à l'école publique, on va à l'école des Nations Unies. Donc on n'a pas le même uniforme scolaire, on a un autre système scolaire et on habite dans des camps de réfugiés. On a même une aide alimentaire de l'ONU. Et la vie dans un camp est beaucoup plus difficile que la vie dans la ville, parce que dans les camps, vraiment les conditions de vie sont catastrophiques.
Quand vous dites que vous êtes réfugié à Gaza, vous êtes originaire de quelle région de Palestine?
Ma grand-mère venait de Jaffa et mon grand-père venait d'un petit village de 48.
Et ce sont vos parents qui se sont installés à Gaza?
Ce sont mes grands-parents. Nous sommes la troisième génération.
Alors vous êtes né à Gaza, mais malgré tout, vous n'êtes pas Gazaoui finalement.
Et non, sur les papiers, je ne suis pas Gazaoui, je suis réfugié, j'ai un numéro de réfugié de l'ONU.
Alors comment ça se passe pour vous qui êtes réfugié à Gaza pour circuler, pour vivre votre vie normale?
Aujourd'hui, on a la même vie parce que les Gazaouis n'ont pas le droit de sortir de Gaza. Ils subissent aussi les mêmes conditions de vie finalement. Aujourd'hui, à Gaza, on a 4 heures d'électricité depuis 2006. On n'a pas l'eau courante. On n'a pas, la sécurité avec les bombardements. On subit tous les problèmes du blocus israélien. Donc on est tous dans la même prison de Gaza.
Mais il y a quand même une vie sociale. Est-ce qu'on peut sortir? Est-ce qu'on peut aller au cinéma?
À Gaza, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas l'offre culturelle. Je veux pas dire qu'il n'existe pas, mais je veux dire, il est très limité. Les sorties pour les garçons, ça va être le café le soir. Les gens vont dans les cafés, surtout sur la plage, où ils jouent aux cartes, ils fument, la
ils
chicha,
boivent.
Ils regardent le foot. Et pour les femmes qui ne vont pas au restaurant, au café, vont aller dans les familles. Il y a une vie sociale très importante à Gaza.
Et Gaza est au bord de la mer Méditerranée. Est-ce qu'on peut aller à la plage?
On peut aller à la plage, même si depuis quelques années, il est déconseillé aux Palestiniens de se baigner dans la mer de Gaza, comme elle est très très polluée, parce que toutes les égouts de Gaza sont versés sans traitement dans la Méditerranée. Et aussi, on a la Méditerranée, mais on ne peut pas manger du poisson, parce que pour pêcher, c'est très difficile. Israël a limité la distance, donc les pêcheurs n'arrivent plus à pêcher à Gaza. Donc c'est vraiment, on a une Méditerranée qui est enfermée. On voit d'ailleurs les bateaux militaires qui enferment la mer. Donc moi, depuis que je suis né, je vois cette ligne de bateaux.
Mais par exemple, est-ce qu'il y a des marchés sur lesquels on peut acheter de la nourriture, des fruits, des légumes?
Ça existe, mais il faut dire qu'à Gaza, les fruits et les légumes, tout vient d'Israël d'abord. Tout coûte très très cher. Et avec le blocus, il y a beaucoup de produits qui n'entrent plus dans la bande de Gaza. Et se trouve parfois pour des gens qui ont un peu d'argent, qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent sur le marché avec le blocus. Donc on a que les produits, les éléments de base. Donc vous trouvez les pâtes, le pain, les fruits, les légumes, mais il y a beaucoup de choses qui n'entrent pas.
Et sur le plan des études, est-ce que un jeune de Gaza peut faire des études? Est-ce qu'il peut aller à l'école puis à l'université?
Oui, parce que à Gaza, il y a une dizaine d'universités. C'est une très très grande ville universitaire et la population gazaoui est très très jeune. Donc on a beaucoup d'étudiants. Le problème, c'est plutôt le chômage, parce qu'on est aujourd'hui à 45% de chômage, et parmi la jeunesse, on a atteint 60%. Donc les jeunes savent que même s'ils vont à la fac, ils vont pas trouver du travail. À Gaza, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'électricité, donc vous imaginez, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de commerce, tous les passages sont fermés, donc c'est vraiment une ville où les gens font des études, mais après ils se retrouvent à la maison.
Alors, on a bien compris que c'est très difficile, voire parfois impossible de sortir de Gaza, mais peut-on circuler correctement à Gaza? Est-ce qu'il y a des systèmes de bus, des taxis, des voitures? Est-ce que la sécurité est assurée?
Il n'y a pas de transport en commun à Gaza. Il y a les taxis collectifs, des taxis particuliers qui prennent plusieurs passagers. On peut aller partout à Gaza, mais il faut souligner que si on roule plus que 30 minutes, on est en dehors de Gaza. Ça veut dire Gaza, c'est vraiment un tout petit monde. Et les gens à Gaza qui n'ont aucun contact avec le monde extérieur ne se rendent pas compte qu'il y a un autre monde. Pour moi, ça a toujours été Gaza et la planète entière. Et on est enfermé par les quatre côtés, donc c'est vraiment une boîte de sardines. Et avec 2 millions d'habitants, c'est la première densité dans le monde. Et avec 300 km² seulement. Donc c'est vraiment la première densité, c'est très petit. Si vous roulez 30 minutes, vous êtes sur les frontières.
Alors vous avez vécu en 2008 la guerre de Gaza, puis les affrontements entre la résistance palestinienne et l'armée israélienne en 2012. Comment vit-on? Vous étiez adolescent, puis jeune adulte à ce moment-là. Comment vit-on cette période qui doit être difficile, évidemment?
C'est vraiment un choc, la guerre, parce que on pensait que comme on était bombardé depuis 2000, que c'était déjà le pire. Donc, mais non, mais il y avait pire encore avec ces bombardements intensifs. J'y croyais pas que j'allais survivre. Il y a beaucoup de Palestiniens qui croyaient plus à la vie, hein, quand on est bombardé de cette manière. Et c'est un choc parce qu'on voit les morts, les blessés, la ville a été détruite d'une manière affreuse. Malheureusement, ça n'a pas empêché de faire une troisième agression en 2014, avec 50 jours de bombardement, 2000 morts, 10 000 blessés dans une ville où il y a un seul hôpital principal. 10 000 blessés dans une ville sans matériel, sans médicaments. Donc ça a été une catastrophe humaine jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a 100 000 personnes qui ont perdu leur maison, qui sont déplacées dans des écoles, dans la rue.
Est-ce que la population comprend ce genre de situation, de ces bombardements incessants? Est-ce qu'elle comprend pourquoi ça se passe?
Parfois, c'est difficile de comprendre parce que... Et on comprend pas pourquoi il y a sans cesse des guerres, des bombardements. Mais aujourd'hui, il y a un désespoir total. C'est-à-dire, les gens à Gaza, avec le blocus, ils peuvent plus vivre. On est à 90% de personnes sous le seuil de la pauvreté. Ça veut dire la misère totale. Et toutes les 12 ans, 4 ans, il y a des bombardements intensifs. Je pense que vraiment, il y a un désespoir total aujourd'hui. On comprend pas où on va. On ne sait même pas pourquoi Israël maintient cette situation à Gaza.
Alors, Amir Hassan, vous avez choisi, finalement, vous avez rencontré le français quand vous aviez 18 ans. Racontez-nous comment ça s'est passé et pourquoi vous avez choisi le français.
Après mon baccalauréat, je devais aller à la fac comme tous les jeunes palestiniens
à
l'Aqsa, et je voulais aller au département des médias étudier le journalisme, sauf que cette année-là le département était fermé parce qu'ils avaient pris beaucoup d'étudiants avant. Donc je cherchais un autre département et je suis tombé sur le département de français, et en entendant cette langue pour la première fois, elle est très très belle, je me suis arrêté et je me suis renseigné et j'ai fini par être inscrit dans ce département, et je suis resté 4 ans et j'ai été diplômé en 2012 de ce département.
Et grâce à ce français que vous avez étudié à l'université à l'Aqsa, avec d'ailleurs Ziad Medouk, que nous avons reçu il y a quelques semaines à Orient Hebdo, qui est un poète palestinien de renom, vous-même, vous avez pu venir en France, c'est cela ?
Tout à fait. Je dois dire que c'était peut-être la plus belle chose pour moi, l'apprentissage du français, parce que ça m'a permis de voir d'abord que le monde n'est pas seulement Gaza, comme on l'imagine à Gaza, et qu'il y a un autre monde, qu'il y a d'autres civilisations, d'autres cultures. Ça m'a permis de m'échapper, d'aller sur Internet, de regarder une autre culture, autre chose, et découvrir le cinéma français, les chansons, l'actualité internationale. Et ça m'a permis plus tard d'avoir l'opportunité de venir travailler et étudier en France.
Alors vous êtes poète, en tout cas vous êtes reconnu comme tel. Vous avez écrit 2 livres, c'était en 2007 et 2008, 2 livres de poèmes en arabe, Le Temps Bizarre, donc en 2007, et Le Battement de la Rue, c'était en 2008. Mais désormais, vous écrivez de la poésie en français.
Oui, j'essaye.
Et vous avez été d'ailleurs, vous avez reçu un prix, je crois, oui, de l'Institut du Monde Arabe,
tout c'est
ça.
Tout à fait.
Ouais. Pourquoi écrire en français plutôt qu'en arabe, qui pourrait être entendu, notamment à Gaza,
tout à fait. C'était un défi, peut-être, d'écrire dans une langue étrangère. C'est toujours un défi. Et c'est une belle langue, il y a une poésie différente. Et c'était aussi pour adresser un message au monde extérieur, qu'il voit qu'au Gaza n'est pas seulement les bombardements ou les morts, qu'à Gaza, il y a beaucoup d'artistes à Gaza, il y a beaucoup d'universitaires, c'est une grande ville, il y a une culture, c'est une ville romaine, il y a une civilisation. Aujourd'hui, la Palestine est le deuxième pays qui a le plus grand taux de scolarité dans le monde arabe, avec la Jordanie. Donc ce n'est pas parce qu'il y a la guerre qu'il n'y a pas une vie humaine des gens qui espèrent vivre.
Merci Amir Hassan, je rappelle que vous êtes originaire de Gaza et que vous êtes un poète aussi de langue française.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous prenons maintenant la direction de Jérusalem, où nous retrouvons Michel Paul.
Bonjour.
Michel, l'idée d'une ambassade américaine à Jérusalem a été relancée dès l'intronisation de Donald Trump comme 45e président des États-Unis. C'est un sujet qui suscite beaucoup de passion, comme tout ce qui touche à cette ville, et c'est l'occasion pour nous de faire le point sur le statut de la ville sainte.
Jérusalem, Al-Quds, Yerushalayim. Vous savez, Eric, depuis plus de 2000 ans, les Juifs répètent dans leurs prières « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie ». Eh bien, on peut dire que le sujet n'est pas sur le point de quitter l'ordre du jour. Jérusalem, une ville qui s'étend sur plus de 200 km² avec une population de 860 000 habitants, juifs, musulmans et aussi chrétiens, qui s'y côtoient quotidiennement. La ville trois fois sainte, avec 3 points forts pour les religions, le mont du Temple et le mur des Lamentations pour les juifs, la mosquée d'El-Aqsa, le 3e lieu saint de l'islam, et le Saint-Sépulcre pour les chrétiens.
Concrètement, Michel, cela va faire bientôt un demi-siècle que l'État d'Israël occupe Jérusalem-Est.
C'est au lendemain de la guerre des Six Jours, en juin 1967, que le gouvernement israélien décide d'annexer la partie orientale de Jérusalem, jusqu'alors occupée depuis 1948 par les forces jordaniennes. Les Israéliens parlent alors de la réunification de la ville, une décision encore renforcée par la loi fondamentale de la Knesset en 1980, qui fait de la ville sa capitale éternelle et indivisible. Alors Eric, Jérusalem, capitale d'Israël, c'est quelque chose qui fait l'unanimité pour la population juive en Israël. Yoshua Amichav, ancien diplomate israélien.
Chaque pays a le droit de fixer sa capitale là où bon lui semble. Je pense que dans le cas de Jérusalem, on ne peut pas nier tout lien entre le peuple juif et Jérusalem. Donc l'État d'Israël a parfaitement le droit de fixer sa capitale à Jérusalem. Et après, les autres nations, bien entendu, le droit de le reconnaître ou pas.
Et en attendant, l'accès au mont du Temple ou esplanade des mosquées est régi par les règles dites du statu quo, qui donnent lieu à de nombreuses controverses et aussi à des échauffourées multiples.
En tout cas, une chose est sûre, Michel, il n'y a pas d'ambassade à Jérusalem.
La communauté internationale ne reconnaît pas le statut de capitale à Jérusalem. À l'heure actuelle, d'ailleurs, aucun pays ne possède d'ambassade dans cette ville, mais cela n'a pas toujours été le cas. Yoshua Amichav.
Dans les années 60 et 70, il y avait 13 ambassades étrangères à Jérusalem. C'était majoritairement des pays sud-américains. Lorsque la loi sur Jérusalem a été votée par le Parlement israélien, ces pays ont retiré leur ambassade, ce qui devrait aussi indiquer quelque chose aux dirigeants israéliens. Il n'est pas toujours nécessaire non plus d'agiter spectaculairement toutes sortes de choses qui peuvent provoquer des contre-réactions.
Auparavant, avant la guerre du Kippour, en octobre 73, certains pays africains, notamment l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire, avaient des ambassades à Jérusalem dans la partie occidentale de la ville. Quant aux consulats qui se trouvent à Jérusalem, ils ne sont pas accrédités auprès des autorités israéliennes, mais pour certains, auprès des autorités religieuses. C'est le cas de la France, notamment, qui jouit du statut de gardienne des lieux saints, ce qui astreint d'ailleurs le consul général à participer à des cérémonies religieuses parfois étonnantes au regard du principe de la laïcité.
Et donc, à ce stade, c'est une situation que l'on peut qualifier de floue qui prévaut à Jérusalem.
Le Congrès des États-Unis a voté une loi en 1995 établissant que Jérusalem devrait être reconnue capitale de l'État d'Israël et que l'ambassade américaine devrait être déplacée à Jérusalem au plus tard le 31 mai 1999. Depuis et jusqu'à présent, le déménagement de l'ambassade a systématiquement été reporté deux fois par an par le président américain. Les documents américains reconnaissent le statut de capitale. Les autres consulats se contentent de la mention Jérusalem sans aucune autre précision. En 2009, l'Union européenne a appelé à faire de Jérusalem la capitale conjointe de deux États, Israël et la Palestine. Mais en attendant, Eric, pour la communauté internationale, le statut de Jérusalem reste lié au plan de partage de l'ONU qui, vous le savez, n'a jamais vraiment été appliqué.
Merci Michel pour cet éclairage sur le statut de la ville de Jérusalem. Nous allons maintenant au Caire retrouver Alexandre Bouchanti pour parler d'un problème que l'Égypte connaît depuis un bon quart de siècle et qui revient quasiment chaque année avec l'entrée de l'hiver et du froid. Il s'agit de la pénurie chronique de bonbonnes de butagaz. Alexandre, comment expliquer ce phénomène alors que l'Égypte est producteur de gaz naturel ?
L'Égypte a même été exportateur de gaz vers l'Europe. Elle a même construit deux usines de liquéfaction. Le problème, c'est qu'elle a surestimé ses réserves et qu'elle en est aujourd'hui réduite à importer du gaz et même du charbon pour faire fonctionner ses industries énergivores comme le ciment et l'acier. La situation devrait commencer à changer d'ici la fin de l'année avec l'arrivée du gaz de Zohr, le plus grand champ de gaz naturel découvert en Méditerranée. Mais en attendant, il faudra faire face à la pénurie de butagaz.
Pourtant, l'hiver n'a pas été si rigoureux que cela en Égypte cette année.
Et c'est ce qui a permis de limiter la pénurie de butagaz. Un gaz qui, rappelons-le, n'est pas produit en Égypte et doit être importé d'Arabie Saoudite ou d'Algérie. Et c'est justement le gaz algérien qui a limité la casse puisque l'Arabie a suspendu ses livraisons pour des raisons de divergence politique. Mais le problème, c'est que le butagaz reste très largement subventionné. La bonbonne de 12,5 kg est officiellement vendue à 15 livres égyptiennes, soit 75 centimes d'euros au dépôt de distribution. Le consommateur a le choix de faire la queue devant le dépôt ou de se faire livrer la bonbonne à domicile par un marchand ambulant. Dans ce cas, le prix de la bonbonne double et en cas de pénurie, le prix triple ou même quadruple.
Quelles sont les populations les plus affectées par la pénurie ?
Comme toujours, ce sont les plus pauvres qui payent le prix fort. Le réseau de gaz alimente les grandes villes et les consommateurs ne payent que 75 centimes d'euros, l'équivalent d'une bonbonne de butagaz. Par contre, les quartiers informels et les bidonvilles n'ont pas de réseau de gaz pour des raisons de sécurité. Le risque d'explosion serait trop grand dans des ruelles tortueuses et des maisons construites de briques et de brocs. Mais les plus mal logés sont les paysans soumis à une double peine. Le prix augmente du fait de leur éloignement des dépôts, mais aussi à cause des élevages de poulets chauffés au butagaz. Les bagarres pour une bonbonne de butagaz sont fréquentes et parfois même mortelle.
Affaire à suivre donc. Merci Alexandre. Orient Hebdo, une réalisation François Porcheron que vous pouvez retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. On se retrouve samedi prochain. Tout de suite, un nouveau journal. Religion du